Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour et bienvenue dans un coup de fil assez exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est un immense honneur pour moi de l'avoir au téléphone dans le coup de fil du matin. Il est journaliste, il est né aussi en Bretagne à Saint-Malo, il est agrégé d'histoire, puis il est devenu producteur à France Culture et à France Inter, qui est depuis hier donc la première radio de France dans les derniers sondages. Alors, vous êtes ?
Eh bien, Jean Lebrun, bonjour à vous, Nathalie. Non, je t'ai plus quand même dans la description des honneurs, des qualités, des grades. Nous sommes juste des confrères en radio. Alors, vous, dans les Côtes d'Armor, et puis moi, dans la vaste maison ronde, d'où je vous parle. Alors, il y a des panneaux, 44e jour de grève à Radio France, soutenez la lutte des salariés en grève. Et alors, vous avez évoqué les chiffres de médiamétrie. C'est un petit peu le même phénomène qui se produit qu'il y a 5 ans, au moment d'une longue grève aussi à Radio France. Les auditeurs, je ne dis pas que c'est la totalité des auditeurs de toutes les radios en France, mais les auditeurs de Radio France doivent exprimer leur soutien au programme de France Musique, de France Culture et de France Inter, même s'ils sont interrompus, même s'ils sont devenus de la dentelle. Ça veut dire que ils expliquent qu'ils veulent que soit maintenue la radio publique dont l'existence, en tout cas l'essence, est menacée, pas tant par les économies récurrentes depuis plusieurs années, mais par la perspective, vous savez, d'une loi qui nous intégrerait, nous autres Radio France, dans une vaste holding où notre culture et notre singularité risquent de disparaître au profit de la télévision vite publique. Nous sommes une radio vraiment publique.
Publique. Voilà. Il faut absolument qu'elle soit conservée, cette radio publique.
Ça fait plaisir de parler à une radio associative peuplée d'Amont.
Alors, justement,
je souhaite son anniversaire à Stéphane Amont.
Voilà, tout à fait.
Et puis, je voulais rappeler le souvenir d'une chaîne de télé des Côtes d'Armor qui s'appelait Armor TV, maintenant défunte, dont le patron s'appelait Olivier Amont. C'est une autre famille. Et puis, je voulais aussi saluer la mémoire de mon compère avec qui je faisais une émission mensuelle sur cette chaîne qui s'appelait Jean Kergris. Et Jean Kergris, c'était le pseudonyme de Jean Amont.
Ah, ce sont des grands en général, les Amont. Ils marquent toujours leur destinée.
Je note qu'ils sont plus nombreux que les Lebrun et peut-être même que les Lefèvre. Je peux évoquer le souvenir de Jean Kergris parce que j'ai eu le privilège de partager d'abord de bons moments de télévision avec lui, et puis de grands moments pendant la fin de sa maladie et pendant ces derniers mois. Il s'était installé, alors qu'il avait quitté l'ordre des Dominicains il y a bien longtemps, il se déclarait athée, il s'était installé dans l'EHPAD, la maison de retraite, des anciens prêtres du diocèse de Saint-Brieuc. Et alors, son grand enjeu, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il n'a pu rester au repas, au réfectoire de l'EHPAD de Saint-Brieuc, pendant un mois à peu près, mais son grand jeu, sa grande joie, ça consistait à déjeuner et à dîner avec ses anciens confrères. Lui avait quitté l'église depuis longtemps, en changeant de table à chaque repas et à poser des questions provocatrices. Alors toi, t'es pas devenu athée, moi je vais t'expliquer. Pourquoi je suis devenu athée? C'est pas du tout pour des histoires de mœurs, le mariage des prêtres et autres fariboles. Non, c'est fondamentalement pour des raisons métaphysiques. Et puis, il commençait la conversation. Il a beaucoup joué avec la charité de ses confrères qui avaient accepté de le recevoir alors qu'il avait quitté l'église. Et puis, il avait un projet de programme de conférence. Alors, il n'a pu réaliser que la première avec moi, qu'il avait invité à venir parler. Alors, au mois de novembre, j'ai discouru devant un parterre d'anciens ecclésiastiques, certains en fauteuil roulant, à la maison de retraite de Saint-Brieuc. Et alors, il voulait que je parle, il avait voulu que je parle de la presse catholique à laquelle il m'est arrivé de participer dans mes jeunes années. Mais tu seras critique, hein, m'avait prévenu. Alors j'ai essayé d'être critique, mais dans des bornes convenable pour les auditeurs. Et puis après, il voulait inviter Bernard Béret, l'ancien prieur de Boquin, qui avait semé la révolte, voire la révolution dans les années 70 dans l'église en Bretagne. Et Jean-Pierre Granis, il est mort dans le plein contrôle de ses moyens. Je n'avais vu quelqu'un qui mourait avec son ordinateur sur les genoux, parce que la dernière semaine, il avait son ordinateur sur les genoux.
Ah, oui.
Il écrivait à la terre entière et il tenait le journal de sa maladie. Les jours commandent, ça va paraître au mois de mars, aux éditions des Montagnes Noires, son éditeur habituel, le tango avec long cou, qu'il a rédigé comme ça au fil des jours et qui est un témoignage bouleversant et très drôle aussi, parce que sa spécialité était l'humour et l'humour ne l'a jamais quitté.
Ah. Donc Jean, on le comprend en vous écoutant là que vous êtes un grand passionné donc d'histoire. Et alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, Jean Lebrun, on peut vous entendre tous les jours sur France Inter dans l'émission donc que vous animez, La Marche de l'Histoire. Et ça, c'est depuis 2011.
Oui, alors maintenant vous parlez des grandes audiences, mais vous savez, il faut mettre le même soin à préparer une temporaire Mort TV pour Bretagne 5, même si l'audience est moins grande que pour France Inter. Qu'on parle à 3 personnes, qu'on parle à 50 personnes à les pattes de Saint-Brieuc, ou qu'on parle à des centaines de milliers de personnes à France Inter, il faut essayer d'être exact. C'est la première qualité de l'historien qui cherche quand même une vérité, cherche quand même à établir une vérité.
Et vous, Jean Lebrun, vous faites jaillir des voix oubliées. C'est un peu ça, votre...
Oui, parce que mon idée, c'est que nous marchons sur les morts. J'en reviens au propos précédent concernant Jean-Pierre Brest. Nous marchons sur des morts. Et les morts qui sont en dessous de la terre, je vous parle de l'époque d'avant l'incinération, les morts qui sont en dessous de la terre, ils sont plus nombreux que nous autres, les vivants. Et sous la surface de la Terre, il y a des sources cachées. Il y a des plantes qui germent et qui vont peut-être éclore. Et ça, ce sont les morts. C'est le travail des morts. C'est une immense germination. Alors, l'historien, c'est comme le jardinier qui attend que sourde de dessous la terre, la voix des morts. Et moi, je tiens beaucoup à la voix des humbles, parmi les voix des morts qui doivent compter. Tous ceux dont le destin a pu être malheureux, a été inachevé, les morts qui sont disparus dans le désespoir, parce que ce qu'ils avaient espéré ne s'était pas réalisé. Alors, je vais prendre encore un exemple d'un breton, parce que un de mes premiers bouquins, quand j'étais plus jeune, concernait Lamennais. Lamennais, c'était un grand réformateur de l'Église qui, comme Jean-Pierre Brest, l'avait quitté. Il était mort un peu oublié en 1854, sous le Second Empire. Tous les espoirs de démocratie qu'il avait entretenus avaient finalement échoué, puisque régnait un régime dictatorial. Il paraît qu'il est mort en se tournant la tête contre le mur. Mais moi, le premier livre que j'ai fait lui était consacré parce qu'il s'agissait de retrouver la trace de cette voix qui avait été étouffée par les événements. Il avait écrit un livre qui avait eu un grand retentissement en 1832 qui s'appelait « Les paroles d'un croyant ». Réécouter les paroles de ce croyant désespéré et les faire ressurgir à la surface de la Terre d'aujourd'hui. Je crois que c'est la fonction de l'historien. Alors, qui choisit?
Et l'histoire reste toujours un mouvement.
Ça ressuscité, qui choisit les sources qui correspondent à son tempérament et à son désir. Oui, l'histoire, c'est toujours un mouvement. Et moi, j'ai coutume de dire que l'un des grands charmes du passé, c'est qu'il est imprévisible. C'est-à-dire que le passé change continuellement en fonction des questions que nous autres, les contemporains, lui posons. Il faut renverser la proposition habituelle qui est quand même aussi ennuyeuse que commune et qui consiste à dire que le passé nous donne des leçons. C'est le présent qui pose des questions au passé et le passé s'en trouve transformé, renversé, bouleversé, il devient étonnant.
Merci. En tout cas, Jean Lebrun, je serais bien resté vous écouter. Vous êtes vraiment passionnant. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, ils peuvent se brancher directement sur France Inter à 14h30 maintenant dans la marche de l'histoire.
Voilà, puis je crois que je serai à Dinan si les moyens de transport le permettent ce week-end dans une opération qui est montée par Jean-Michel Djian avec Pierre Bond, un ancien Europe 1, par la bibliothèque municipale de Dinan, c'est-à-dire dans les Côtes-d'Armor.
En tout cas, c'est avec plaisir que nous vous inviterons, Jean Lebrun, donc à venir nous voir ici à Bretagne 5. Merci à vous, en
volontiers.
Tout cas. Merci d'être intervenu et encore bon anniversaire. Hein. C'était la petite surprise à Stéphane Hamon. Merci.
C'est dit, c'est redit. À bientôt.
À bientôt, Jean Lebrun. Au revoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.